Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On est ensemble pour commenter l'actualité à partir de 11h et puis entre 10h et 11h, eh bien, les médias avec Gilles Gansman et Rémi Pernelet.
Bonjour,
on va recevoir Yannick Agnel, et Alexandre Boyon qui viendra nous parler des championnats du monde de natation. Oui, pas d'athlétisme, de natation qui
puis
tiendront
première,
en Corée
quoi.
Du Nord.
Bah, oui, comment on devient commentateur?
Absolument. Yannick Agnel, qui est quand même un de nos plus grands champions de natation, qui sera avec nous. Mais surtout double champion olympique, deux titres de champion d'Europe. Bref, on va parler natation avec lui et puis avec Alain Carazé, on va parler séries. Quelles sont les séries qui ont cartonné et surtout quelles sont celles qui vont cartonner? On va vous donner tous les conseils sur les séries à venir que vous pourrez regarder cet été. Puis entre 11h et midi, on reviendra sur la circulation différenciée. Est-ce que c'est une décision discriminante? On va parler du rapport sur la radicalisation dans les services publics, un énième rapport, et puis Sciences Po, la fin des élites. On en parle avec vous, 0826 300 300. On commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors Rémi, on commence par le carton.
Mais oui, le carton hier, enfin c'est un petit carton, mais c'est pour France 3, 3 572 000 téléspectateurs et 17,3% de part de marché pour la série Tandem avec Astrid Veillon. C'est 400 000 de plus que la semaine dernière, à peu près la même audience que pour la fin de la saison 2 l'an dernier. C'est un point de part de marché de plus, donc ça marche pas mal.
Bien,
ouais. France 3 était leader donc, des chaînes généralistes hier, devant France 2, 2 463 000 téléspectateurs et 13,7% de part de marché pour Tout le monde joue au docteur avec Nagui et Michel Simès. Et puis en troisième position, TF1, seulement 2 050 000 téléspectateurs et 10,8% de part de marché pour le film Hollywood avec Florence Forestier et Jamel Debbouze. Pourtant, mais vous n'avez pas forcément dit ça hier. Un flop pour TF1 hier.
Je le pensais.
Oui, vous le pensiez, mais les pronostics, on les a tous perdus parce qu'on a tous mis... On a tous, Gilles dit...
Je demande à réécouter.
Que TF1 serait en premier.
Donc on a tous perdu.
Oui, mais le film était vraiment pas bon.
Donc, oui, daube au cinéma, daube à la télé.
Oui, mais parfois daube au cinéma et ça marche à la télé parce qu'il y a les têtes d'affiche.
Oui, c'est vrai, très juste. Le Gadin,
c'est malheureusement pour M6 hier, seulement 1 806 000 téléspectateurs, 8,7% de part de marché pour le lancement de la nouvelle série comique Le Grand Bazar avec Grégory Montel et Biouna, nous les recevions hier. Décidément, M6 n'a pas de chance avec ses séries comiques. Je rappelle que Papa ou Maman, lancé en décembre dernier, avait recueilli 2 340 000 pour son lancement et s'était effondré à 1 500 000 pour les deux derniers épisodes. Mais là, vous voyez, le démarrage est encore plus faible pour Le Grand Bazar. Donc, ça n'augure
ça prend pas.
C'est marrant parce que c'était quand même un petit peu différent de, de
mais
ce
Papa
qui
ou
se...
Maman, on le trouve. C'est pareil, moi je continue à dire que c'était une bonne série.
Là, il y a la saison 2 qui démarre la semaine prochaine, je crois, sur M6, pour tout l'été.
Donc, on va voir comment ça évolue. Mais le deuxième épisode était à 1 360 000 hier. Donc, vous voyez, pour
Le Grand Bazar. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné.
Je pense que ça ne va pas marcher du tout.
Dommage. On parle de la surprise maintenant.
C'est plus tout à fait une surprise. Mais enfin, bon, TMC est encore cinquième chaîne nationale hier.
Il y a du foot.
1 676 000 téléspectateurs, 8,5% de part de marché pour le dernier huitième de finale de Coupe du Monde féminine entre les Pays-Bas et le Japon. C'est 200 000 de plus que la semaine dernière, qui était déjà un match de Coupe du Monde féminine entre l'Italie et le Brésil. Hier, on en parlait, Valérie, j'ai un peu recherché à titre de comparaison, un match de Coupe du Monde masculine entre l'Argentine et le Nigeria, par exemple, l'an dernier, réunissait 6,5 millions de téléspectateurs. En fait, ça faisait à peu près la moitié de l'audience des matchs de l'équipe de France. Donc, le score des matchs hors équipe de France était quand même supérieur puisque là, on est à moins de 20% de l'audience des matchs de l'équipe de France.
Ouais.
Bon, alors après, le football féminin est quelque chose qui est en train de s'installer en France. C'est le tout début.
D'accord.
Je voulais noter aussi la bonne audience de Sister hier. 577 000 téléspectateurs pour Toy Story 2. C'est 200 000 de plus que la semaine dernière, mais c'est toujours une très bonne idée de programmer un,
au moment de la
Toy Story, au moment de la sortie de Toy Story 3.
4. C'est le 4 qui sort.
Le 4, pardon, oui, avec un décalage de
génération. Oui, plus Toy Story que le football, je vous le conseille.
Et Quotidien était le seul talk show d'accès hier. 1 289 000 téléspectateurs pour Yann Barthès qui recevait Mika. Pour les best-of, 610 000 pour C'est à vous et 580 000 pour Touche pas à mon poste.
Très bien. On a en ligne avec nous Christine. Bonjour Christine.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé hier ?
J'ai regardé sur la 2, Nagui et Michel Simès.
D'accord.
Ah, ça vous a plu ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a pas mal de choses qu'on connaissait déjà, enfin qu'on sait, je veux dire. Il y a pas mal de choses qu'on a appris parce qu'on a beaucoup d'idées reçues sur les faits et gestes qu'on applique l'été. Et puis après les moments assez marrants, je dirais, de l'émission, c'est quand Laurie est intervenue et a fait participer un petit peu sur le plateau pour les bons gestes à avoir et pour rester en forme.
D'accord. Est-ce que maintenant vous serez réanimer quelqu'un sur une plage ?
Pardon ?
Est-ce que vous serez maintenant comment réanimer quelqu'un sur une plage ?
Oh, pas quand même, vraiment, non.
Ah, bah.
Bon. Bon,
je ne resterai pas à rien faire, mais je ne le sauverai peut-être pas non plus.
Et le duo Nagui-Michel Simès vous a plu ?
Oui, beaucoup.
C'est
beaucoup,
sympa.
Beaucoup. Oui, bon. Oui. C'est un bon divertissement, tout à fait.
Et bah,
ce sont les deux animateurs préférés des Français. Enfin, dans les deux, ils sont dans le top 3.
Oui, dans le top 3, absolument. Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Bon, hier, vous savez, c'était, vous saviez, 5, 4, 3. Hier, vous savez,
c'est un métier, passer à la télé, à la radio.
Oui, exactement. Vous savez, hier, quel était le sujet du jour pour la télévision? Et évidemment, c'était la canicule, le soleil, la chaleur. Et puis, les petites tenues. Du coup, vous savez, les corps pourraient s'exhaler. Et du coup, le secrétariat d'État de Marlène Schiappa a lancé une campagne télé, cinéma et réseau sur l'outrage sexiste durant quand il fait chaud.
Si je suis en tenue d'été, selon vous, c'est parce que, réponse A, je veux qu'on me harcèle dans la rue.
Que des inconnus me collent dans les transports sans mon consentement.
Réponse B,
c'est juste l'été. Pendant les périodes de canicule, la loi contre le harcèlement de rue s'applique aussi.
L'outrage sexiste, c'est de 90 à 750 euros d'amende.
Déjà 547 verbalisations.
La canicule n'est pas une circonstance atténuante.
Soyez digne,
ne soyez pas le prochain.
Bon bah de nouveau, hein, l'homme est un prédateur sexuel qui ne sait pas résister. Non, vous ne voulez pas.
Moi, je trouve ça pas mal. Pour
moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien comme campagne aussi.
Bah oui,
tu vois pas.
Si, franchement. Bah,
vous n'avez pas vu le hashtag kiffe mon décolleté ? Je kiffe mon décolleté ?
Bah oui.
Bah oui. Bon, bah alors.
Bah oui. Non, mais.
Non, mais vous dites, vous lancez des trucs. Bah oui, mais vous ne m'aurez pas.
Bon, Rémi, 90 euros à 750 euros. La canicule sur BFM TV, hier, chez le journaliste Jean-Jacques Bourdin, notre ministre de l'écologie, François de Rugy, lui, a trouvé une solution.
Un ministre sans cravate ce matin, que se passe-t-il ? C'est rare, hein ?
Mais vous savez qu'au Japon, il y a déjà de nombreuses années, il y a eu des instructions données. Les ministres, les dirigeants d'administration ne devaient pas mettre de cravate pour montrer l'exemple au travail, d'alléger en effet la tenue vestimentaire pour s'adapter à ces canicules. Parce que on sait bien que l'effet pervers, en quelque sorte, qui est tout à fait compréhensible, c'est de pousser les climatisations là où il y en a. Si on les pousse, ben on consomme encore plus d'énergie et en quelque sorte, on aggrave le phénomène du réchauffement climatique.
Et oui, il faut enlever la cravate et ça change tout.
Mais pour revenir aux campagnes, moi je trouve ça plutôt bien qu'il y ait des campagnes comme celle-là. Non, mais que Marlène Schiappa, pour le coup, je crois que elle en a fait la publicité sur le web également. Ça peut faire rentrer des messages dans les esprits.
On la critique assez quand elle est trop présente sur les médias, mais là, pour le coup, sa campagne, c'est plutôt, je pense, c'est bien.
Oui.
Canicule chez David Pujadas aussi hier soir, qui avait invité Evelyne Delia, qui, vous savez, en 2014, avait imaginé les conséquences du réchauffement climatique dans un bulletin météo de 2050. Mais en fait, pas besoin d'attendre cette date, puisque le bulletin fictif de 2050 est en fait devenu réalité en 2019.
Demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice, avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes.
Voilà, alors ce qui est frappant, c'est que c'était 2050, sauf que ces températures que vous montrez, que vous exposez, c'est exactement celle qu'on va connaître à un degré ou deux près, c'est exactement celle qu'on va connaître cette semaine.
Ça veut dire que le climat s'emballe. Hein. Et en 2003, même 2006, on a déjà eu des températures qui dépassaient les 40 degrés. Et il faut savoir que ça, ça n'est pas sorti de mon imagination, mais c'est Météo France qui travaille justement, qui planche, qui fait des projections sur l'avenir pour voir l'évolution des températures.
Et, ça et c'était drôle parce qu'il y avait Le Parisien qui, en 2014, avait fait deux pages à ce bulletin en disant que c'était un peu fictif, que ça n'allait pas arriver tout de suite. Et en fait, on y est. Quand vous avez écouté le bulletin tout à l'heure, j'ai vu vos regards, vous pensiez que c'était un bulletin.
On se demandait si c'était
le bulletin 2050 ou le bulletin... Et donc,
heureusement, vous êtes là, Gilles, pour nous dire que c'était 2050.
Non, il a dit juste après, voilà, monsieur.
Il a dit juste après. Petite précision, hier, dans votre zapping, donc nous avons une petite réaction du cabinet de Madame Poisson, puisque vous avez passé un extrait d'un affrontement entre Brune Poisson, d'une discussion, et Gilles William Golnadel. Donc le principe du zapping, c'est de prendre des moments un peu
forts,
30 à 40 secondes. Donc effectivement, on n'a pas passé in extenso. Donc préciser, et elle a raison, que Brune Poisson, en fait, ce qu'elle remet ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle n'accepte pas, ce sont les gens qui pas ceux qui disent qu'il faut parler de façon moins apocalyptique de la canicule, etc. Mais ce sont ceux qui remettent en cause les origines humaines du dérèglement climatique. Et effectivement, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de contradictions possibles. Mais ce qu'il faut vous expliquer, vous qui nous écoutez, c'est que le zapping, c'est un petit exercice, voilà, et que ça n'a pas preuve. Alors effectivement, ça peut biaiser le propos, croire qu'elle ne veut pas la contradiction. Or, ce n'est pas ça. Elle accepte, évidemment. Mais...
Oui, puis la thématique de mon zapping hier, c'était les esprits qui s'échauffent.
Qui s'échauffent, voilà. C'était les esprits qui s'échauffent.
Donc, différents plateaux.
Si ça a pu être mal interprété, effectivement, on a re-regardé l'extrait. Effectivement, Brune Poisson explique bien, elle accepte la discussion, mais que dire que l'homme n'y est pour rien n'est pas possible.
Voilà, c'était dans l'émission d'Audrey Crespo-Mara, et donc vous pouvez aller voir le replay sur MyTF1. Hier sur France 2, notre auditrice en a parlé, Nagui et Michel Simès, vous faisiez jouer au docteur. Alors, une séquence savoureuse dans l'émission où deux comédiens rejouent les perles qu'entendent dans leur cabinet les médecins. Écoutez, c'est plutôt drôle.
Bonjour monsieur, installez-vous, je vous en prie.
Bonjour docteur, je suis venu vous voir pour que vous me fassiez la déclaration de médecin vétéran, s'il vous plaît.
Et votre mari, comment il va?
Mon mari, c'est dur, hein?
Oui.
Ouais. Sa maladie d'Eisenhower, ça s'arrange pas du tout. Et puis il lui donne une quantité gastronomique de médicaments.
Le cardiologue? Ah oui, on l'a vu, oui. Et vous aviez raison, pour la tachycardie. Il m'a confirmé que c'était ça.
Oui, c'est ça. La fellation in vitro, c'était pour notre dernier enfant.
Ah, mais mes acouphènes deviennent de plus en plus insupportables.
Ah bon?
Mais venez, écoutez à mon oreille le bruit que j'entends. Tiens.
Avant l'été, je me disais que ce serait bien de faire un gros ketchup pour être sûr que tout va bien.
Alors, d'après ma femme...
Oui?
Il semblerait que je fasse de l'apnée du soleil. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Mettez un chapeau. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous prenez comme médicament, madame?
Ah bah moi, j'y connais rien. Hein. C'est vous le docteur aux dernières nouvelles?
C'est dingue.
J'imagine. Comme dans tous les métiers, ketchup. À ketchup, oui, je pense qu'ils l'entendent assez souvent.
La tachycardie.
Ça pourrait vous arriver, non? De dire des choses comme ça.
Allez donc. Moi, je vais lancer MeToo, je vous le dis. C'est tout, il est 10h16.
Vous avez complètement passé à côté d'un son, d'un zapping, d'un truc très important de la télé hier. Tenez, écoutez.
We turn to Gilles Gansman. Did you sell your Michael Jackson records?
Yes, of course. It's not the same thing.
C'est une interview que j'ai donnée en anglais. Je me suis lancé.
Vous jouez à ce jeu-là, vous verrez vendredi.
Voilà. Donc
Gilles, c'est un moment important de France 24 hier.
Vous avez été interviewé, on est super fiers.
Vous élever contre l'absence de tribute à Michael Jackson. Et je trouve que vous prononcez très bien tribute.
Tribute, voilà. Donc c'était sur France 24. On était super fiers.
Je vais faire mon cahier de vacances en anglais.
Que vous soyez invité. Mais on rappelle qu'on peut aller voir votre doc sur le replay.
Sur MyTF1, il a été vendu.
Surtout, on peut regarder France 25, votre interview en anglais. France 24, votre interview en anglais.
Je m'internationalise. Je suis à deux doigts d'aller à RFI.
Yannick Agnel et Alexandre Boyon seront avec nous dans un instant sur Sud Radio. Yannick Agnel, notre champion, un de nos plus gros champions, grand champion de natation, qui est le nouveau consultant de France Télévisions. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias.
Les invités du jour.
Les invités du jour, ce sont Yannick Agnel, bonjour.
Bonjour.
Notre, un de nos grands, grands champions de natation, double médaillé, médaillé olympique, deux titres de champion d'Europe. Votre palmarès est tellement long qu'on ne pourrait pas finir l'émission. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes le nouveau consultant natation de France Télévisions et Alexandre Boyon, bonjour.
Bonjour Valérie.
Les téléspectateurs de France Télévisions vous connaissent et évidemment, vous êtes à la manœuvre sur France Télévisions, et vous êtes vous-même, j'ai découvert ça dans votre biographie, un ancien sportif de haut niveau.
Oui, alors très ancien, ouais. C'était dans un autre millénaire.
Non, mais quand même, l'aviron à haut niveau, champion de France en 88-89.
1900 quand même, hein, je précise.
Oui, c'était quand même au siècle dernier.
Oui, oui.
Alex, alors dites-nous, Yannick Agnel, comment on passe de champion de natation à commentateur sportif?
Assez naturellement. En fait, je trouve ça sympa d'avoir l'occasion. Pour le coup donné par France Télé, mais de vivre son sport d'une autre façon, de passer même par une autre porte quand on arrive à la piscine, et puis voilà, d'avoir l'occasion de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné d'une autre façon, de soutenir mon équipe, voilà, mes amis qui sont en équipe de France, qui ont mon âge. Ouais. Donc on prend un peu, je dis souvent, je suis passé rapidement de jeune con à vieux con. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. Donc,
parce que grand con, c'était déjà fait.
Mais ouais, c'est cool, quoi.
Ouais, c'est cool.
C'est une belle expérience.
Alors vous avez pris des cours, des entraînements, vous avez essayé ou vous y allez un peu?
Non, j'apprends des meilleurs. Hein. Je suis avec Alexandre, je suis sous tutelle.
Ouais. En liquide exclusivement.
Voilà. Mais sinon, Alexandre, vous y allez sans formation comme ça?
Sans formation, je bosse de mon côté. Ouais. Donc déjà, je me tiens au courant. Avec Alexandre, on va échanger avant, évidemment, bien sûr, la phase des commentaires. Et puis après, il s'agit de se renseigner sur tous les gens.
Vous avez fait déjà l'expérience, Alexandre Boyon, avec... c'est pas le premier champion.
Non,
qui vient
on a eu la chance d'avoir d'excellents commentateurs consultants.
La barre est haute.
Laure Manaudou, Florent Manaudou, qui est parti pour la plus belle des raisons, finalement, pour replonger. Ça se passait très bien. On a eu Michel Rousseau auparavant, qui était une Rolls-Royce. Mmh. Et puis voilà, et Yannick, c'est un choix naturel, parce que déjà, il a un palmarès qui parle pour lui. C'est le seul double champion olympique français de natation dans les mêmes jeux. Quand vous avez un Michael Phelps à Londres qui vient vous voir en disant, heureusement que j'étais pas sur 200 mètres, parce que ça aurait été difficile, ça vous pose quand même un homme. Et puis on s'était rendu compte dès qu'il avait 16 ans, 17 ans et qu'on l'interviewait, on s'est dit ouais, celui-là il n'a pas que du chlore dans la tête, il y a aussi un peu de neurones.
Et ça change?
Ah bah non, ça change pas, j'ai la chance, j'ai commencé par ça, je vous connais un peu, j'ai aussi une carte de presse. Non mais c'est, voilà, tous les journalistes sont... ont vraiment envie de travailler avec des gens avec qui ils s'entendent bien. Et puis, nous, on s'entend super bien. Moi, j'ai eu toujours le privilège de travailler avec des gens avec qui ça se passait bien. Quand on a des Michel Rousseau, des Florent Manaudou. Le risque, c'est d'oublier des noms. Des Stéphane Diagana ou des Yannick Agnel, on est tranquille parce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont une capacité. De toute façon, eux, ils ressentent avant. Voilà. Mmh. Nous, on est journalistes, on travaille, on peut expliquer des choses, mais eux, ils le ressentent. Ils savent avant même ce qui va se passer.
C'est l'intérêt d'avoir quelqu'un qui a été dans la situation dans laquelle vont être ceux qui vont participer à ces. Donc mondiaux de natation, ce sera du 21 au 28 juillet à Guangzhou, en Corée du Sud.
Alors il parle coréen en plus.
Il parle coréen, c'est vrai.
Comme un enfant de 3 ans, mais.
Allez-y, dites-nous deux trois mots en coréen.
Je veux que je te dise quoi? Je sais pas. Annyeonghaseyo.
D'accord.
Ça veut dire bonjour déjà.
Bonjour.
Ça veut dire bonjour. Bonjour. Comment allez-vous?
Il n'y a personne qui peut vous démentir ici.
Voilà, exactement.
Alors il s'est entraîné quand même avec Michael Phelps. C'est l'entraîneur de Michael Phelps pendant quelques années. Il parle russe aussi, donc ça peut aider quand même.
Vous avez hésité ou vous a tout de suite emballé, Yannick Agnel?
Non, ça m'a tout de suite emballé. Alors j'ai pris mon temps avant de revenir à la natation, et je voulais que ce soit fait dans de d'une certaine façon, de bonne manière, et que j'ai envie d'y aller, que j'y retourne avec passion aussi, c'était très important, et je suis content de pouvoir le faire avec Alexandre en plus, qui est voilà, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien depuis des années, on se connaît depuis des années, on se côtoie, et puis voilà, mais j'avais besoin d'abord de couper un petit peu, de me recentrer, de réapprendre. Quand on arrête sa carrière, c'est toujours difficile de comprendre à nouveau ce dont on a envie, ce dont on a besoin, de se redonner un fil rouge.
Ouais.
Et puis je suis content que celui-là passe par du commentaire,
de natation.
Soutien voilà, à toute l'équipe de France de natation. Allez. On va essayer de faire lever un peu les gens de leur canapé, ce serait cool.
On se retrouve dans un instant, mais vous allez nous dire effectivement si on a des chances de se lever de notre canapé avec ceux qui vont y participer. Donc ce sera retransmis sur France O et France 3 du 21 au 28 juillet. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Yannick Agnel et Alexandre Boyon. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, 10h-11h, les médias. L'événement, ce sera à partir du 21 juillet jusqu'au 28 juillet sur France O et sur France 3, les championnats du monde de natation. Et on est avec Yannick Agnel, qui est le nouveau consultant natation de France Télévisions, et Alexandre Boyon, également avec nous, journaliste sportif. Gilles, vous vouliez poser une question.
Oui, moi je voulais savoir si lorsqu'on s'arrête en compétition, on a encore du plaisir à aller à la piscine avec sa serviette, son parasol ou à la mer et se baigner sans partir pour un 400 mètres et rester quand même au bord.
Alors la mer, oui, mais il faut qu'il y ait un peu de fond quand même.
Ah oui.
Ah oui, c'est un truc qui m'a toujours ennuyé. Tu sais, pourtant, on te dit oh, la mer, le ressac, la plage, etc. Moi, je suis bien une heure et demie, deux heures, et puis après, je m'ennuie, mais fermement. Ouais, ouais. J'ai besoin de ça. Il faut vraiment que le bouquin soit bon. ou alors qu'il y ait des raquettes de plage à côté et que je commence à me dépenser parce que sinon ça m'ennuie. Quoi.
Ou que Pamela Anderson arrive en courant, non.
Oh là, je pense qu'elle a autre chose à penser
elle
en ce moment.
Libre, ouais. Elle est libre.
Et la piscine ?
J'y retourne avec plaisir, mais par contre, je ne me lève pas tous les matins à 5h30 en me disant « Chouette, je vais aller me faire 2h, 2h30 d'entraînement. » Ouais.
Racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir sur France Télévisions donc pendant ces mondiaux. Donc France O et France Télévisions qui vont diffuser les épreuves. France
Exactement, 3, ouais. Parce qu'on va jouer la complémentarité 3, oui. Dans la mesure où il y a également la dernière semaine du Tour de France, qui est un événement attendu par tous les spectateurs. Donc,
c'est ça qui bloque, parce que habituellement c'est diffusé sur France 2 Tout ou à France fait. 3. Là, c'est
mais
une
on
première...
a vraiment voulu être présent. Ouais. C'était important à un an des JO
vous
d'être
que ça
là.
Ça peut être un peu un handicap quand même d'être sur France O par rapport à.
Si vous me parlez en termes d'audience, fatalement ouais. Vous avez des gens qui regardent le Tour de France, mais c'est pas un problème. On le voit pas comme ça. Vous savez, nous on offre un service, on est présent sur un événement, et puis on considère que la natation depuis de longues années maintenant sur France Télévisions est un événement incontournable de l'été. Donc on est là-dessus, et puis on est à un an des Jeux qui vont être un feu d'artifice, qui est un moment très important pour France Télévisions, surtout qu'on a acquis les droits de 2024 également. Et donc, bon, on est présent là-dessus et on sait que chaque répétition avant les Jeux Olympiques, il se passe toujours quelque chose parce que c'est là qu'on marque vraiment les esprits une dernière fois. Alors, on aura des Français qui seront là. Il y a des chances de médailles et puis il les connaît bien. Yannick, il y a Charlotte Bonnet qui est championne d'Europe du 200 mètres nage libre. Il y a Fantine Le Saffre aussi qu'il connaît bien. Et puis Mehdi Metella. Mmh. Voilà, donc.
Sur Papillon, oui.
Voilà, il y a des stars qui sont parties parce que Camille Lacour est partie. Yannick Agnel est parti. Malheureusement, Camille Muffat n'est plus là. Ouais. Et puis Florent Manaudou, lui, il est
mais
en train
pourtant,
de revenir.
Il y a des stars qui reviennent, mais lui, il revient et un peu trop
tard.
Il
n'est pas prêt, oui. Yannick Agnel, Florent Manoudou.
Il n'est pas encore prêt pour être champion olympique, mais il reste une énorme saison avant d'être champion olympique.
Un deuxième
olympique.
Temps mondial lors de la dernière compétition.
Mais c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et puis surtout, il a le courage d'aller se frotter directement au meilleur après seulement 10 semaines de préparation et de leur montrer qu'il est là, qu'il est prêt et qu'il est seulement à quelques dixièmes d'eux. Je pense que pour moi tous les voyants sont verts de son côté pour l'année prochaine et même
qui
et
sont
même
les principaux concurrents qui sont les plus forts aujourd'hui par la France
un Américain qui s'appelle
Caleb Dressel pour le coup
vous l'avez dans le communiqué de presse vous dites les deux torpilles Caleb Dressel sont vraiment des torpilles
on va être simple c'est-à-dire Caleb Dressel il a réussi quelque chose que seul Michael Phelps avait fait 10 ans plus tôt remporter 7 titres au championnat du monde il avait 20 ans c'était il y a 2 ans il s'est approché à 2 centièmes du record du monde du 100 mètres papillon de Michael Phelps. Là, il est en période de travail. Il a encore fait des chronos incroyables il y a 4 jours. On sait que c'est le nouveau Phelps, le nouveau Spitz.
C'est un grand nageur. Ça passionne les Français également, la natation à la télévision. Ça fait
sport,
toujours. En fait, non, mais c'est chouette, hein, Rémi.
Valérie, ça passionne les Français grâce à des champions comme Yannick Agnel. Parce qu'en fait, depuis quelques années, il y a eu, depuis déjà un certain nombre d'années, mais il y a une école française. Importante et vous y croyez ? Vous pensez vraiment qu'on va cette fois-ci avoir à nouveau pas mal de médailles ?
Oui, complètement. Alors cette année est un peu spéciale, hein, comme le rappelait Alexandre, dans la mesure où on est dans
une année... La délégation n'est pas énorme, elle n'est pas quantitativement pas énorme, si ?
Ouais, mais alors, ils sont 11, mais voilà, c'est...
Mieux vaut la qualité que la quantité.
Oh là là, quand on commence à dire ça, c'est...
Non, je vais vous donner un chiffre. 98, 9 nageurs à l'arrivée, 4 médailles, le premier titre pour Roxana Maracineanu, qui est aujourd'hui ministre, et 3 médailles d'argent. Donc après, si vous mettez des quotas qui sont élevés pour pouvoir entrer en équipe de France pour les championnats du monde, et que vous êtes là-bas, vous savez que vous faites partie d'un contingent qui joue le podium, la finale, minimum. Donc voilà, après, ça ne veut pas dire qu'ils seront tous sur le podium, loin de là, mais il y en a qui vont pour apprendre, mais on sait quand même qu'il y a un potentiel pour réussir quelque chose. Donc voilà, effectivement, si vous êtes 25 Américains, là, c'est inquiétant, parce qu'on se dit qu'ils peuvent tous aller chercher un titre.
Ouais. Et puis malgré tout, en finale, il n'y a que deux personnes par nationalité qui peuvent accéder.
Elles sont où vos médailles, justement, puisqu'on parle de médailles ?
Ça dépend lesquelles. Elles sont chez mes parents, parce que je n'ai pas assez de place à Paris. Donc il y a trop de médailles.
Et les médailles olympiques ?
Elles sont cachées. En sûreté, mais elles sont pas...
Elles sont pas dans
un coffre-fort à la banque, par contre. Elles sont à portée de main, quoi.
Et vous les regardez de temps en temps, vous les...
Non.
Vous dormez
vraiment
avec.
à la demande oui, vous des les gens montrez, ouais. Quand ils viennent à la maison, mais en général, c'est pas... Non, je m'amuse pas à les sortir le soir et à les frotter comme une lampe magique en disant ah, peut-être que ça va revenir, je sais pas.
Et comment le retour de Florent Manaudou, vous le comprenez ? Ça vous a effleuré l'esprit après tout, parce que vous êtes extrêmement jeune, donc vous pourriez vous aussi revenir.
Oh, merci. En fait, on a eu deux façons différentes de penser l'après Rio. Pour moi, c'était vraiment définitif. C'était je m'arrête et puis j'ai ma seconde vie, ma troisième, quatrième qui commence. Pour Florent, c'était un break. Florent n'a jamais dit qu'il voulait arrêter définitivement la natation. Il s'est dit, je vais faire un peu de hand, je vais faire un peu de cinéma, et puis advienne que pourra, et je reviendrai quand j'aurai le sentiment que vraiment j'aurai à nouveau envie d'en découdre avec les meilleurs mondiaux. Ce qu'il a fait à ce moment-là, et il le fait suffisamment en amont, je trouve, pour pouvoir être performant, notamment pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Donc, on a vraiment eu deux parcours différents. À ceci près, je trouve que Florent a une intuition qui est assez incroyable, que moi, j'ai rarement eu dans ma vie. J'ai toujours été plutôt à foncer la tête dans le mur et me dire « Ah, ben tiens, ça fait mal ». Florent a eu la décence et l'intelligence de s'arrêter un peu avant et de dire
« Je vais laisser Yannick Agnel aller dans le mur, je vais voir si ça fait mal ».
Voilà, c'est
ça.
Ouais.
Et Florent a toujours eu cette intelligence de s'arrêter au bon moment, de savoir dire non quand il avait envie de dire non et de pouvoir y retourner quand il avait envie d'y retourner et pour les bonnes raisons, parce que pas tous les retours sont faits de la bonne façon, et notamment dans un sport comme la natation qui est relativement complexe, où il faut s'entraîner des heures et des heures par jour, donc mieux vaut avoir envie d'y aller et d'en découdre.
Oui.
Vous allez faire quoi à côté, vous, comme métier ou autre? Vous avez
c'est une bonne question.
La reconversion,
en fait, j'ai envie de faire plein de choses.
La télé.
Un de mes démons, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Un animateur.
Télé, radio, peu importe. Ouais.
Mais là,
un démon pendant que j'étais
en live.
La pression, la pression sur les épaules.
Ouais. Oui, vous disiez, un de vos démons.
Un de mes démons, entre guillemets, pendant ma carrière de nageur, ça a été de faire une seule chose pendant 6 à 8 heures par jour et de rentrer chez moi et de rien pouvoir faire d'autre de mes journées parce que j'étais lessivé.
Au sens propre
comme au figuré. Et maintenant, j'ai le choix, en fait. J'ai le choix, et alors c'est une grande chance qu'on a, quand on a glané quelques titres mondiaux, etc. Les portes s'ouvrent un peu plus facilement parfois, et maintenant, une fois que les portes sont ouvertes, il faut faire ses preuves, il faut travailler comme tout le monde. Donc,
vous avez
plein de milieux à la fois.
Pas de passion, pas une envie.
Si,
plein de choses.
Si, j'en ai plein. J'ai l'écriture. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'avais même, il y a quelques mois de ça, écrit quelques chroniques sportives que j'avais envoyées dans une autre radio, etc. On m'a dit, oh, c'est super, etc. Et on ne m'a jamais rappelé. Donc si ça se trouve, c'est que vraiment les gens trouvaient que c'était nulissime.
Dans les médias, il y a des oui qui veulent dire non. Ça,
mais j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Qu'elle soit médiatique
mais
ou
vous
non.
Vous pourriez par exemple commenter d'autres sports que la natation, ça vous tente?
Ah, il faut avoir un certain œil d'expert et être une bible du sport que je ne suis pas, comme Alexandre.
Bah, après, il faut être Alexandre.
C'est un métier, voilà, c'est ça, il est consultant aussi, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que les bons consultants pourraient faire journaliste et les journalistes pourraient par moment avoir des analyses de sportives entre guillemets sans avoir le palmarès, le background. Mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'avoir un regard sur le tennis, c'est pas simple.
Maintenant, en fait, il n'y a plus d'émissions sportives ou de retransmissions sans consultant. Le consultant qui existait, qui n'était pas systématique il y a quelques années, maintenant c'est devenu un passage obligé.
Ouais. Je vais même aller plus loin.
C'est Canal Plus.
C'est pas Canal Plus.
Alors, télévision, attention.
C'est France Télé, enfin c'est France Télévision, c'est le RTF à l'époque, et le premier c'était Pierre Albaladejo. Donc voilà. Après Canal Plus, Pierre Albaladejo a commencé en 68. Et Canal Plus était en 84, non, mais voilà. Bon, mais
Yannick,
c'est
quelque chose.
J'allais même dire autre chose. Il n'y a même plus quasiment d'émissions tout court sans consultants. Ouais. Les consultants économiques, politiques, etc. Il y en a tout le temps. Alors, ce n'est pas des consultants, ce sont des experts.
Qui sont peut-être moins experts que vous en général.
Et moins experts que vous surtout.
Moi je suis la reine.
Et
alors vous savez, quand on tape votre nom sur Google, donc les choses qui viennent le plus, c'est la taille. Combien vous mesurez?
Ouais.
Combien vous mesurez? Vous nous le dites.
2,02 m.
2,02 m.
Sans talonnette.
Après, il y a copine, compagne, femme.
Donc, tant qu'il n'y a pas nu ou à poil.
Non, il n'y a pas nu ni à poil. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur votre vie sentimentale. Et puis il y a roman. D'accord.
Oui, parce que j'ai sorti un roman il y a quelques jours.
Que vous aimez écrire et lire.
Ah bon, je ne savais pas.
Oui. Une passion pour la lecture.
Non,
et
mais
c'est
inspiré de votre adolescence, c'est ça?
Oui, très largement, très très romancé.
Yannick, j'ai une question entre garçons comme ça. Est-ce qu'on a des problèmes de peau avec le chlore?
On a la peau très sèche, inévitablement, et des problèmes capillaires aussi. Il y a beaucoup de nageurs qui ont les cheveux absolument brûlés.
Et les sourcils aussi.
Parce qu'avec Alexandre, une fois, on s'était rendu aux États-Unis, à Atlanta, et on avait fait 2 semaines de préparation dans une piscine qui était traitée avec un produit vert toxique, véritablement. Ouais. Et j'étais ressorti après ces 2 semaines sans sourcils.
Incroyable.
Et comment vous êtes venu à la juste,
on commence par le début, sourcils, mais... peut-être.
En tout cas, les résultats étaient au rendez-vous. Donc.
Comment vous avez eu envie de devenir nageur?
Ça s'est fait naturellement.
Poser 100 fois la question,
j'ai commencé la natation en ayant 8 ans parce que je devais apprendre à nager, parce que mes parents faisaient construire une piscine. J'habitais à Nîmes, dans le Gard. Et donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. On m'a posé la question, est-ce que je voulais faire plutôt de la natation en loisir ou en compétition? Et tous mes petits camarades étaient dans le groupe compétition. Donc je suis parti dans le groupe compétition et en fait petit à petit tout s'est enchaîné.
Vous avez gagné.
Le livre effectivement, qui vient juste de sortir, 19 juin 2019, donc fallait nous le dire, on le savait pas, on n'a pas fait notre boulot de journaliste. Yann, ça s'appelle Yann, donc et c'est un roman graphique ou c'est
c'est un roman
parce que la couverture est assez jeunesse, voilà c'est ça, avec Pascal Rutter. Donc
c'est
Yann donc qui raconte votre histoire pour tous ceux qui sont fans.
C'est le moi de la reconnexion avec la natation et la reconnexion avec le sport plus généralement, donc je suis content que tout ça puisse avoir lieu en même temps, et puis j'ai vraiment hâte d'être dans un mois à Guangzhou pour les championnats du monde.
Et ben 21 au 25 juillet, ce sera en direct du 21, qu'est-ce que j'ai
au 28,
dit au 28 juillet, 28, 28. Voilà, les événements sportifs sont sur France Télévisions, vous ne me direz pas le contraire.
Non.
Alexandre Boyon, il va y avoir le Tour de France, il va y avoir le championnat d'athlétisme également, non?
Doha, oui, pour la première fois au mois de septembre.
En septembre.
Septembre aussi.
À cause des chaleurs, c'est ça.
Et puis entre 21 autres. Au 28 juillet, donc Guangzhou, j'ai du mal à le dire, décidément, avec Yannick Agnel, nouveau consultant natation de France Télévisions. Merci Alexandre Boyon.
Merci beaucoup.
Des médailles. Merci d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve dans un instant, on va parler série.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h pour parler médias. On a eu la chance d'avoir donc Yannick Agnel. Maintenant, on a la chance d'avoir le spécialiste mondial des séries. Le spécialiste mondial des séries, Alain Carazé. Bonjour.
Bonjour,
merci d'être avec nous.
Faites combien aux 200 mètres?
3 heures.
Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre formidable podcast Previously, qui raconte
absolument
l'histoire des séries. C'est sur le site de Télé Loisirs.
Et c'est le season finale aujourd'hui. C'est le dernier de la saison.
Ah,
mais ça
reviendra
la saison prochaine. Et il y a même un cliffhanger à la fin. comme n'importe quelle bonne série.
Et vous avez publié Séries Anatomie, le 8e art décrypté chez Fantasque Édition. Alors racontez-nous un petit peu, on va faire le point sur, ouais. Sur les séries qui ont cartonné. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler série si on ne parle pas plateforme également.
Également, mais on est à une période de bascule quand même. Ouais. Moi, le bilan que je tire de cette saison, hormis quelques succès et quelques échecs, c'est le fait que c'est vraiment la saison qui a prouvé qu'il y avait deux types de publics pour les séries maintenant. Il y a tout un public qui s'est complètement déporté sur les plateformes et qui ne voit plus les séries que par Netflix, Amazon Prime et les prochaines. Généralement, je parle en moyenne, hein, les millennials, 15-35, etc. Et à partir du moment où, et ça se voit dans les médias, tous les médias qui s'adressent à ce public-là parlent uniquement des séries qui démarrent et qui sortent sur Netflix, Amazon Prime, etc. Et il y a les autres séries qui sont sur les chaînes, on va dire, habituelles, les TF1, les France 2, les France 3, qui font 6, 7 millions de téléspectateurs, ce qui n'est quand même pas rien, mais qui s'adressent à un public de plus en plus âgé. Et qui commence donc, en tenant compte de ça, à faire appel à des formules que l'on connaît très bien. Enfin, si c'est pas un hasard si Capitaine Marlowe fait autant d'audience, c'est parce que le personnage est truculent, mais quelque part, c'est une histoire policière qui semblable un peu à Columbo. Il y a un début, un milieu, une fin. Ouais. On voit les d'autres épisodes et ainsi de suite.
Donc, il y a vraiment deux publics. Ce qui explique peut-être la nouvelle série d'M6 n'est pas fonctionnée également, où elle s'adressait à un public plus jeune avec des thématiques un petit peu plus familiales et ça n'a pas marché.
Je pense que c'est complètement ça. Quand on voit aussi, par exemple, une des rares tentatives de France 2 dans des séries un peu différentes comme Double Jeu. Que je considère quand même assez amusante, innovante, même déplaire, dans lesquelles, si vous vous souvenez, c'était quand même un personnage avec un dédoublement de personnalité. C'était un flic avec un dédoublement de personnalité. Ça a moyennement marché, ça n'a pas super bien marché. C'est dommage. Parce que
Marc Lavoine.
Ouais, c'est deux productions plutôt intéressantes. Je suis certain que ces séries-là, à partir du moment où elles sont sur une plateforme, d'un seul coup, on puisse. Alors, on est à une période de bascule. Et puis, même dans notre consommation de séries.
C'est un peu contradictoire avec le fait que pour les chaînes, les séries, c'est encore une des armes essentielles de programmation.
Les séries produites par elles. Elles se rendent bien compte que, à très rares exceptions près, des séries américaines, comme on les a connues dans les décennies précédentes, c'est un peu terminé. Ouais. Cette saison, il y a quand même eu deux gros événements séries. D'un côté, la seule série américaine qui est devenue un carton, c'est Good Doctor. Ouais. Qui est formidable, innovante, intelligente, fine, subtile.
Avec un personnage, rappelons, de médecin autiste, un peu étrange, mais qui trouve toujours, qui a des intuitions géniales.
Exactement.
Donc,
Je sais pas ce que vous voulez dire.
Doctor House.
D'ailleurs, c'est les mêmes producteurs. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est les mêmes producteurs.
Ça a plutôt bien marché.
Ça a super bien marché. Ça s'adresse un peu à tout public. En plus, on voit sa vie privée en même temps. Enfin, c'est à la fois un mélodrame et à la fois une série hospitalière. Et d'un autre côté, ça a été à la télévision l'invasion, il y en a un par chaîne, des feuilletons quotidiens.
Ouais.
Alors que pendant des décennies, on n'en avait quasiment plus. On se disait non, mais voilà, ça ne marchera pas. Hormis Plus belle la vie, il n'y en a pas d'autres, etc. Et bien si, maintenant, il y en a trois. Dont un, quand même, qui a fait le grand pari de se mettre quasiment en access prime time, enfin vraiment très près,
sur France 2.
À 20h30, quoi, sur France 2, jusqu'à des 21h. Ça veut dire que quelque part, si ça se plante, c'était carrément toutes les soirées de France 2 qui se plantaient aussi avec, quoi. Ça entraînait dans sa chute tout le reste. Le pari a été gagné, visiblement. C'est un rendez-vous fidélisant, ce que ne sont pas les séries sur les plateformes, puisque les séries sur les plateformes, vous avez les 12 épisodes, vous les regardez en un week-end, le week-end le suivant, vous l'avez complètement oublié. Et on passe à la série suivante, et ainsi de suite.
Ouais. Rémi ?
Si on élargit un peu au domaine des fictions, et pas seulement des séries, des fictions de télé, il y a quand même une recette qui fonctionne extrêmement bien, ce sont les fictions françaises, souvent inspirées de faits divers, ou directement retraçant des faits divers.
Jacqueline Sauvage, par exemple.
Ou des fictions policières, qui ont très bien marché dans l'année. Donc ça marche quand même extrêmement bien.
Ça marche
des unitaires, peut-être, comme De Gouttes
d'eau. On est un des rares pays à avoir encore à notre télévision des fictions unitaires.
La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est une fiction.
Absolument, même si c'est un nombre limité d'épisodes.
Dans quel pays il y a des téléfilms
Des téléfilms militaires, c'est quasiment terminé. Aux États-Unis, vous n'en avez quasiment plus, quoi. c'est fini. Vous en avez sur les quelques chaînes un peu familiales, la période de Noël, vous avez les téléfilms de Noël, mais c'est un peu terminé. Les ce qu'on appelait les TV movies,
oui,
c'est quelque chose. Non, il y en a quasiment plus. Ouais, ça ne marche plus.
Il n'y a plus que des séries.
Il n'y a plus que des séries ou des mini-séries. Des choses comme par exemple Bodyguard, que l'on a pu voir sur Netflix, c'est une production de la BBC. Ça, ça continue de fonctionner. Un espèce de grand téléfilm en 4-5 parties. Mais un unitaire véritablement, il n'y a plus qu'en France, on en voit. Quoi.
Ouais. Et pourtant, ça fonctionne extrêmement bien.
Et pourtant, ça marche très bien. Parce que c'est destiné à un public qui va regarder un unitaire, une histoire, et qui ne va pas se prendre la tête en se disant « Alors voilà, est-ce que j'ai vu les 50 épisodes précédents? Est-ce que j'ai vu les saisons 2 ou 3 d'avant, avant de me plonger dans la 4 ?» et ainsi de suite. Chose que, sur les plateformes, on est un peu obligé de faire. On a toutes les saisons d'un coup, donc on ne démarre pas une série avant d'avoir vu les saisons précédentes.
Et je pense qu'en France,
que la bascule et le phénomène est assez intéressant.
Et une raison aussi pour laquelle il y a des unitaires en France, c'est que parfois ça sert aussi de pilote déguisé. C'est-à-dire qu'un unitaire qui marche bien, il peut très bien se transformer comme la fiction avec Eric Cantona, c'est ça en flic, en ancien flic justicier, ben voilà, on voit bien que ça a très bien marché. Ben voilà, c'est en train déjà de devenir une série. Quoi.
Tout à fait. Et vous avez un très bon unitaire dès ce soir sur France 2.
Qui ce soir-là et les jours d'après. Donc avec Sandrine Moder, Simon Abkarian et le scénario de Nicolas Mercier qui a fait Clara Scheller.
Tout à fait.
C'est un film, bon, il y avait un gros débat à savoir est-ce qu'on doit adapter.
C'est une histoire d'amour sur le fond des attentats du Bataclan.
Absolument, je l'ai vu. C'est remarquable. Il y a plein de petits défauts, mais c'est absolument remarquable. Ça ne valait pas le déchaînement de... Alors, c'est parlons vrai ici, je le dis franchement, le déchaînement de stupidité qu'il y a eu sur une pétition qui a été mise alors que personne ne l'avait vue, que c'était en tournage, que c'était validé par France 2, que le montage était en cours. Mais non, il y a une pétition et d'un seul coup, on décide...
Il n'y a pas vrai une pétition de n'importe qui, Alain, soyons honnêtes. C'est une pétition des familles. Oui, mais c'était une pétition des familles qui ont eu des morts dans le Bataclan.
D'ailleurs, France 2 explique maintenant qu'ils ont fait le tour des associations pour leur présenter le film et que d'ailleurs maintenant il n'y a plus aucune association qui s'oppose à la diffusion.
Il fallait le voir, absolument.
Il fallait le voir.
Cet été, vous nous dites que sur TF1 il va y avoir une série qui s'appelle Whisky Cavalier.
Ça démarre samedi, ça s'appelle Whisky Cavalier. Aux États-Unis, ça n'a duré qu'une seule saison et c'est bien dommage. Il y a eu là encore des gens qui sont plaints parce que c'est très bien. Et c'est une série d'actions et d'aventures dont le premier épisode se passe à Paris, réellement dans les rues de Paris, avec une série plein d'humour, avec deux agents secrets qui ne sont pas si secrets de ça, FBI et CIA. Dans des enquêtes avec plein de rebondissements. C'est frais, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien mené. Ça a l'air d'être à chaque fois un blockbuster dans chaque épisode. Et c'est très marrant, c'est avec Scott Follet qu'on avait découvert dans la série Scandale, si vous vous souvenez.
Ouais.
Et c'est plutôt pas mal. Et moi, je vous recommande aussi sur M6, ça c'est à partir du 5 juillet, une série qui s'appelle The Rookie.
Ouais.
Ça a l'air de rien comme ça, c'est l'histoire d'un type qui a 40 ans, la quarantaine, sa femme le laisse, son enfant maintenant est parti, et donc il décide de réaliser le rêve de sa vie qui est de devenir flic à Los Angeles.
Ah.
Chacun ses rêves. Lui, c'est devenir policier à Los Angeles.
Espérons que ça fonctionnera bien.
C'est avec Nathan Fillion de Castle.
Ah oui.
Et je vois que Casa de Papel, numéro 3, arrive le 19 juillet. Oh là là, mais je pars pas en vacances. Chez moi,
vous
n'entendez
pas la publicité pour Netflix sur deux écrans.
On peut signaler le carton du film avec Jennifer Aniston, qui est un film assez moyen, qui a fait 35 millions de vues en 3 jours. Il est sorti ce week-end.
Vous êtes Alain.
Ils ont les moyens de voir.
Écoutez, à partir du moment où c'est le diffuseur qui décide lui-même du chiffre et qui donne lui-même le chiffre de son audience, et que personne d'autre ne vérifie ni un Nielsen, ni un Audimat, ni quoi que ce soit, excusez-moi
vous mettez
douter.
En doute.
C'est pas.
Vous êtes Netflixo sceptique.
Oui, voilà. Ça. J'aime bien qu'on me parle vrai, moi. J'aime pas qu'on me raconte des bobards.
Très bien. Donc, vous jetez un pavé dans la mare. Allez, on passe aux 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Ce soir, W9 va revenir sur la pire catastrophe ferroviaire en France depuis les années 80. Nous sommes le vendredi 12 juillet 2013 à 16h53 et le train Paris-Limoges quitte la gare d'Austerlitz pour arriver évidemment en gare de Brétigny-sur-Orge où il va dérailler. Ce soir, Nathalie Renoux présente un documentaire exceptionnel qui revient sur cette tragédie. Ils ont enquêté de nouveau et vous allez voir, les résultats sont assez étonnant. On a donné 30 secondes à Nathalie Renoux pour nous convaincre de se brancher sur W9 ce soir.
7 morts, 70 blessés, vous l'avez dit, c'est l'une des pires catastrophes ferroviaires qui ait connue la SNCF. Mais était-elle prévisible, cette catastrophe? Nous avons enquêté et nous nous sommes aperçus que des cadres de la SNCF savaient qu'il y avait un défaut de maintenance à Brétigny-sur-Orge, savaient que le matériel était défectueux, était vieillissant. Et pire que cela, la compagnie a promis de faire la transparence sur cette affaire et pourtant, des cadres, lorsqu'ils ont été interrogés par les enquêteurs, n'ont pas forcément fourni tous les documents nécessaires à l'enquête.
On verra D'accord. comment la SNCF réagit à cette enquête.
Alors, ce soir, Rémi à la télévision. Ben,
Grey's Anatomy, station 19 sur TF1 vitesse, qui n'a pas marché la semaine dernière.
Grey's Anatomy, c'est la série dérivée.
C'est, voilà, donc, c'est le spin-off. Ouais. Ce soir-là et les jours d'après sur France
donc,
2, ça en revanche.
Donc, le téléfilm que vous nous recommandez, Alain Carazé.
Oui. Largement.
Le village préféré des Français, avec Stéphane Bern. Ouais. C'est, on connaîtra le gagnant
oui,
ce soir.
Qui bascule sur France
5. Nouvelle vie culottée sur France 5.
Nouvelle vie sur.
Nouvelle vie avec Ophélie Meunier, donc qui n'a pas marché.
Sur M6, oui. Et puis, bon, ben voilà.
Alors, il y a Visage Village qui est le film réalisé avec le photographe JR et Agnès Varda. C'est particulier, mais c'est un très. Franchement, allez-y, regardez Arte. C'est un très très beau film, très poétique. Et moi, j'ai adoré ce film.
Je parie France 2.
Je parie pour France 2 ce
soir. Moi aussi, je parie sur France 2. Absolument. Je parie sur France 2. Et voilà. Allez, merci Alain. Merci, ça va trop vite.
C'est un plaisir.
Tout de suite, on se retrouve pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.